c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Bonjour chers amis des beaux avions et des valeureux pilotes. Vous connaissez mon addiction à la mise en avant, sinon en lumière, de pilotes d'avions brillants dans leur carrière, souvent très appréciés à l'époque de leur haut fait, mais dont la postérité ou les mémoires ont pensé qu'il y avait mieux, plus intéressant ou plus convenu à célébrer. Et pourtant, un pilote, régional en outre pour la région toulousaine, pilote de chasse lors de la Seconde Guerre mondiale, dans une escadrille anglaise et sur Spitfire, pilote de ligne, pilote d'essai, d'avion, d'hélicoptère, pilote de planeur, formateur, directeur de centre de formation de pilotes professionnels, instructeur très apprécié des jeunes en aéroclub, constructeur amateur d'avions de tourisme. J'arrête là pour la carrière et l'expérience. J'y ajouterai les qualités humaines, professionnelles et sociales exceptionnelles. Ensuite, au long de cette chronique que je veux lui consacrer et vous faire partager. Ah oui, bien sûr, son nom, c'est Jean Dabos, D-A-B-O-S. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Si vous ne l'avez pas encore entendu, ne vous en excusez pas. C'est évidemment parce qu'il n'y a pas beaucoup été prononcé après sa disparition, sans doute non plus au long de sa carrière, puisqu'un trait essentiel de sa personnalité était la discrétion et la modestie. Je vous fais souvent participer à ma modeste activité d'odonymie, limitée cependant au domaine de l'aéronautique. Là encore, dans le cœur régional de la plus grande partie de son activité, c'est-à-dire Toulouse et la région toulousaine, on peut chercher. Pas de nom, pas de rue au nom de Jean Dabos, sinon à Condon, dans le Gers. Pourquoi Condon? Et heureusement, en fait, c'est sa ville de naissance. Il y est né le 5 juin 1923. Ses années d'enfance se sont passées dans cette bourgade du Gers, sous-préfecture, et aussi cité épiscopale, c'est-à-dire qu'elle abritait autrefois l'évêché. C'est aussi la capitale de la Thénarèse, qui constitue une voie naturelle de communication entre la région bordelaise et les Pyrénées centrales, sans obstacle naturel important. Ce nom n'est pas très connu, si ce n'est par les connaisseurs de l'alcool réputé régional, l'Armagnac. D'ailleurs, Condon a pour nom complet Condon en Armagnac. Alors, études au collège Bossuet, pratique de beaucoup de sports, notamment s'il demande des qualités très physiques, de force et de résistance. Il vient juste d'avoir 16 ans le 3 septembre 1939, lorsque la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne, qui vient d'envahir la Pologne 2 jours plus tôt. Il a tout juste 18 ans, et donc l'âge d'aller se battre lorsqu'il s'engage dans les forces aériennes de la France libre, il rejoint l'Angleterre. Alors commence véritablement sa formation au pilotage des avions. Au début, c'est le fameux Tiger Moss, biplan produit par la firme De Havilland, très largement utilisé depuis plusieurs années pour l'entraînement des nouveaux pilotes. Puis, il passe sur T6 à l'école des pilotes de chasse et en 1943, il est reçu pilote de chasse et est intégré au groupe Alsace. C'est un groupe qui vient d'être transféré en Écosse, à Turnhouse, mais vite déplacé sur le site de Biggin Hill, au sud de l'Angleterre, près de Londres. C'est alors la base de la Royal Air Force. Là, il va s'illustrer aux commandes, notamment de Spitfire, MK9. Plusieurs chiffres différents de missions de chasse accomplies sont cités, mais le plus vraisemblable permet d'en situer le nombre un peu en dessous de 200, notamment dans le ciel hollandais. On lui a attribué une victoire sur un Messerschmitt 109. Rentré en France à la fin de la guerre, il entre chez Air France comme pilote de ligne et il pilote les avions de la compagnie nationale pendant plusieurs années. Il accomplira plus de 2000 heures de vol sur les avions commerciaux de la compagnie nationale tels qu'elle les exploitait à cette époque. Elle continue à restructurer sa flotte hétérogène dont elle avait hérité des différentes compagnies à partir desquelles elle s'était constituée. Les Amiot, Toucan et autres blocs 220 vont progressivement laisser la place à des avions américains, notamment les Douglas DC-3, le fameux Dakota, puis les suivants et quelques avions français qui viendront un peu plus tard. Si P-8 Piloter était bien son univers, la ligne, comme on disait chez les pilotes Air France, était-elle pour autant le milieu idéal? Peut-être pas. N'était-ce pas un peu trop calme pour quelqu'un de dynamique et volontaire qui s'était illustré dans les airs aux commandes de chasseurs mythiques et s'était passionné pour la mécanique et, avec l'évolution, la mise au point des améliorations techniques nécessaires et incessantes? De fait, dès 1949, il rejoint Brétigny et le centre d'essai en vol et commence alors une prestigieuse carrière de pilote d'essai. Pilote d'essai, il ne l'est pas encore, mais au prix d'une formation intense et un travail acharné de découverte et d'assimilation de techniques en vigueur et des inventions et progrès constants de cette période d'après-guerre, il obtient sa licence de pilote. Il obtient sa licence de pilote d'essai d'avion. Elle a le numéro 127. Mais pilote d'essai d'avion quand tout ce qui vole mérite d'être connu et approfondi. Il y ajoute alors l'obtention de la licence spécifique pour les hélicoptères. La sienne a le numéro 5 de la catégorie et on constate là tout de suite qu'il y a moins de candidats pour cette activité beaucoup plus récente d'engins volants, ou du moins beaucoup moins évolués. En effet, les premiers appareils à venir à peu près utilisables sont en pleine gestation. Les plus représentatifs vont arriver avec notamment le fameux Hilaire, série 360 emblématique de la carrière de Valéry André en Indochine, minuscule et très bientôt le non moins célèbre Sikorsky H-19, dont c'est l'année du premier vol. Il pense qu'il y a là matière à beaucoup de développement et qu'il faut être prêt. Sa période au CEV, le centre d'essai en vol, lui permettra de se familiariser avec la multitude d'avions qui volent après la guerre, qu'ils soient français mais aussi allemands ou italiens. Son passage au CEV durera 3 ans, intense. Avec son expérience et sa formation, il entre alors à la SNCASO, Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest, fondée peu avant la guerre à la suite de la loi de nationalisation de l'industrie aéronautique. Au fil des années, des regroupements et des fusions, cette société se retrouvera intégrée dans la SNIAS, Société Nationale Industrielle Aérospatiale, simplifiée ensuite en Aérospéciale et enfin Airbus. Et c'est là un feu d'artifice de noms et de modèles d'avions qui parle de l'extraordinaire évolution de l'aviation, notamment l'aviation à réaction qui n'était pas encore prête pour participer à la guerre, puisque les premiers balbutiements significatifs apparaissaient en 1942 avec le Messerschmitt 262, encore loin d'être opérationnel à ce moment, faute de mise au point et d'un moteur fiable, le Junker, jumeau 004. Le signal des chasseurs à réaction a été donné en Europe, et les modèles se sont succédés à être expérimentés et prouvés dans les centres d'essai des constructeurs. Il y a évidemment plus d'avions, de projets d'avions que de moteurs opérationnels disponibles et, au-delà des qualités propres des avions dans leur conception, leur système et leur qualité aérodynamique, c'est l'adaptation du moteur à la structure fabriquée qui est testée dans la réalité, c'est-à-dire en vol. Et c'est là donc le but essentiel des essais en vol, par les pilotes spécialement formés. Jean Dabos va participer à des programmes extraordinaires et accumuler des exploits, des records et des aventures qu'il vivra toujours avec un enthousiasme calme, probablement profond et intime, et toujours beaucoup de réserve et de modestie. On ne peut pas ne pas citer les plus emblématiques des programmes dont le nom porté de ce fait par le modèle d'aéronef est venu jusqu'à nous pour certains. Si je précise pour certains, c'est parce que beaucoup de programmes se sont révélés pas satisfaisants, peu adaptés à ceux qui étaient souhaités, trop longs et donc arrivés un peu tard, déjà dépassés par la concurrence. Un bon nombre de programmes ont été victimes aussi de décisions technocratiques et souvent politiques avec les hésitations, les reports, les budgets insuffisants ou parfois réduits drastiquement en cours d'études, les changements de stratégie ou même simplement de gouvernement de la nation, les ministres successifs n'ayant pas forcément les mêmes compétences, les mêmes conseillers, les mêmes instructions et les mêmes influenceurs. Terme et sa pratique a toujours traversé les années avec des résultats divers. J'ai volontairement dit modèle d'aéronef puisque, je l'ai dit précédemment, La carrière de Dabos a été partagée entre les avions, tous modèles et dimensions, et les hélicoptères, notamment un. Et je vais commencer par les avions. Et si les avions du début de la carrière de pilote d'essai de Jean Dabos sont maintenant dépassés, mais certains heureusement abrités dans des musées comme témoignage de cet extraordinaire essor, d'autres peuvent encore voler dans des manifestations publiques, notamment les meetings aériens où ils peuvent encore démontrer toute leur qualité. Je vous retrouve à notre prochain rendez-vous pour en parler sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Altitude FM.